Bonjour à tous, mais qu'est-ce qu'ils ont donc dans la tête ces gens qui s'agglutinent dans les RER et les TER sans respecter les marquages au sol, qui s'agglutinent aussi à Paris sur les bords du canal Saint-Martin, parfois, quelle horreur, en consommant de l'alcool, ou qui se précipitent à peine les premières heures du déconfinement arrivé dans les magasins de prêt-à-porter. Qu'est-ce qu'ils ont donc dans la tête. Est-ce que les pauvres sont aberrants? Est-ce que leurs comportements sont aberrants? C'est l'intitulé provocateur de notre émission d'aujourd'hui avec deux invités. Denis Colombi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous êtes l'auteur au début de l'année d'un livre intitulé « Où va l'argent des pauvres ?» aux éditions Payot. Livre dans lequel vous décortiquez le jugement moral qui est en général porté sur le comportement et notamment le comportement de consommation des pauvres. Laura Varlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cheminote, syndiquée Sudrail et on lira avec vous évidemment notamment les images des transports en commun pendant les premières heures du déconfinement, c'était déjà lundi. Tout ça dans cette première émission déconfinée d'Arrêt sur Image depuis le déconfinement, déconfinée mais toujours en télétravail puisque l'équipe d'Arrêt sur Image a décidé de rester en télétravail jusqu'à nouvel ordre sanitaire, présentateur compris, ce qui fait que nous présentons toujours cette émission en visio. Alors, pour commencer, nous allons donc revenir sur cette première journée de déconfinement. La tonalité générale des télévisions étant que ça s'était finalement, du point de vue des transports, plutôt bien passé.
Certains prédisaient le chaos et les bousculades dans les transports en commun. À quelques exceptions près, les trajets du domicile au travail se sont bien passés.
Comme vous pouvez le voir derrière moi, peu d'usagers aujourd'hui. Hein, c'est sur cette ligne C du RER. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 6h du matin, ce que nous avons observé avec Marion Berchet, eh bien, c'est que les règles de sécurité sanitaire étaient globalement bien respectées.
On est sur la fameuse ligne 13. Eh bien, pour le moment, il n'y a pas grand monde, alors qu'il est 8h20, ce qui doit être normalement un des pics d'affluence.
D'une façon générale, tout s'est bien passé, je vous le disais. Les gens, regardez dans cette rame, respectent cette distanciation. Il y a des stickers au sol, à 1 mètre les uns des autres, nous avons pu vérifier.
Lorsque nous étions dans les trains pour arriver ici même dans cette gare, chaque personne avait son masque et autre chose, et c'est un point sur lequel ils insistaient, c'est qu'il y avait une distanciation sociale qui était préservée.
Alors, tout s'était à peu près bien passé, à une fausse note près, dans la ligne 13 du métro parisien, aux premières heures de la matinée, fausse note qui était donnée en direct sur BFM.
Oui, la distanciation sociale est tout bonnement impossible à respecter dans cette rame de métro. Et les stickers posés, collés au sol paraissent bien ridicules actuellement. Alors ces passagers, on peut pas leur en vouloir parce que nous étions avec eux à la station Saint-Denis, Porte de Paris. Ils ont attendu ce métro 40 minutes. Il a eu 40 minutes de retard et ils nous disent tous qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils sont obligés de monter dedans parce qu'ils doivent aller travailler et qu'ils ne peuvent pas avoir plus de 40 minutes de retard pour aller travailler. La bonne nouvelle, la seule ce matin, c'est que le port du masque est très largement sur cette ligne de métro. Tout le monde le porte. Il est d'ailleurs plutôt bien porté. Il recouvre bien le nez et la bouche.
Voilà. Alors, Laura Varlet, comment avez-vous regardé l'interprétation par les télévisions de cette première journée de déconfinement du point de vue des transports?
Bah déjà, la première chose à dire, c'est que ce que je constate et qu'on voit déjà dans les images, c'est qu'il y a une espèce de déconfinement à deux vitesses, c'est-à-dire que dans certaines lignes de RER, de métro, dans certains secteurs de la ville de Paris et aux alentours, on voit des lignes vides. Et on voit par contre certaines lignes comme la ligne 13 du côté nord de Paris, du côté de Saint-Denis. On voit aussi, moi j'ai beaucoup de collègues qui travaillent à Gare du Nord parce que c'est ma région et enfin on voit très bien les RER B par exemple ou D à la Gare du Nord, c'est-à-dire dans le secteur nord pareil de l'Île-de-France, c'est des rames bondées, des gens qui n'arrivent même pas à rentrer dans les rames tellement il y a du monde, etc. Et on voit que c'est des secteurs qui n'ont pas cette possibilité de télétravail malheureusement et qui sont obligés d'aller travailler et qui ont d'ailleurs été probablement en première ligne depuis le début et qui n'ont même pas vécu le confinement, qui ont toujours été obligés d'aller travailler. Et là, ça se complète avec les gens qui étaient confinés, qui sont obligés d'aller travailler aujourd'hui.
Alors, si je vous entends bien, on peut dire que le traitement médiatique tel qu'on vient de le montrer là, finalement, a été relativement honnête, puisqu'il a à la fois montré les problèmes sur la ligne 13 au tout début de la journée. D'ailleurs, la RATP a dit que ce n'était pas dû au déconfinement, mais que c'était dû à un incident, une infiltration, je crois, qui a dû mettre en retard les premières rames. Et les télés ont aussi dit que globalement, ça s'était bien passé. L'incident isolé de la ligne 13 contre le globalement bien passé, c'était ça, en fait ?
En réalité, non, parce que moi, de ce que j'ai comme information de la part de mes collègues, à la fois de la RATP et de la SNCF, c'est que c'est pas un épisode isolé, c'est pas un événement isolé.
C'est-à-dire
pas plus tard qu'hier, par exemple, j'ai des remontées des machinistes de la RATP qui travaillent dans la partie nord de la ville, notamment Gare du Nord, Château Rouge, etc., et qui reporte le fait que les bus sont bondés. Donc c'est pas juste un fait isolé, c'est exactement ce qu'on dénonçait, ce qu'on a dit depuis le début qu'allait se passer, c'est-à-dire que dans les transports, il y a aucune planification, aucune planification cohérente par rapport au flux de voyageurs et le résultat de ça, c'est que il y a toute une partie de la population, notamment celle qui est obligée d'aller travailler, qui a pas le choix de faire du télétravail, qui est exposée, surexposée au virus à bord des transports. Et nous, on l'a dénoncé depuis le début, les transports aujourd'hui sont un cluster de contamination. Enfin, c'est clair et net, en tout cas dans certains secteurs. Donc il ne s'agit pas d'un événement isolé d'un accident qui aurait pu survenir et qui explique en fait ces images de la ligne 13. C'est la réalité à la fois dans la ligne 13, dans les RERB au nord de Paris, dans les bus qui font les bus de banlieue, etc. Donc malheureusement c'est une carte postale assez récurrente ces derniers jours.
Denis Colombi, qu'est-ce qui vous a frappé dans les extraits que vous venez de voir ?
Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a des personnes qui, globalement, essayent de respecter les règles qui leur ont été données, qui essayent de se conformer aux normes, mais qui simplement ne peuvent pas parce que les conditions font que ce n'est pas possible. Et on a eu beaucoup, j'ai eu l'impression, même banal confinement avec les personnes qui sortaient et la tort, on peut facilement se laisser aller au discours, mais que font ces gens, ils sont inconscients, ils ne sont pas conscients des risques. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont plutôt conscientéristes, ils essayent de s'y préparer. Par contre, ils sont à des contraintes, ils doivent aller travailler, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler. Et donc, il faut au mieux avec ça. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est ces images de métro ou de train où on a de la place, où les règles sont respectées. Prends moi-même le train et le métro tous les jours et c'est très facile, même avec le film, même avec tout ça, d'avoir ce type d'image si on se met à la bonne heure et au bon moment. Au-delà de ces images, il faudra avoir une évaluation plus statistique, plus générale de la situation et de la fréquentation.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans le sujet de BFM sur le métro bondé, c'est la petite phrase de la journaliste parlant des gens qui sont donc pressés dans le métro et qui dit « on ne peut pas leur en vouloir ». Comme si, finalement, on prenait acte que le premier réflexe de tout le monde, c'est justement au contraire de leur en vouloir à eux.
Oui, on a avis, je pense, du moins, on a eu beaucoup de discours qui avaient avis à vouloir à beaucoup de personnes. Ça s'est vu au moment du confinement. On a eu plusieurs reportages et plusieurs indignations sur les gens qui sortaient pour aller au parc, qui sortaient à la rue, qui prenaient comme ça des risques. On a eu beaucoup de critiques, parfois extrêmement violentes, contre ces personnes-là. Et donc là, on a spontanément envie de reprendre cette critique-là et finalement se dire c'est de leur faute. Ils respectent pas ces règles. On a aussi des discours sur c'est la culture française, rebelle, qui veut pas respecter ses règles, ce genre de choses. Ces discours existent déjà, il est très facile de les reprendre. Mais ils sont, ça toutes, assez faux.
Alors, la plupart des reportages se sont contentés de constater hein, le fait qu'il y avait du monde ou qu'il n'y avait pas de monde. Il y a une émission qui est allée interroger les gens, les passagers de ce premier métro du déconfinement, pour essayer de savoir pourquoi ils étaient là. C'est l'émission Quotidien, écoutez.
C'est agent de sécurité.
La livraison.
C'est la livraison de quoi?
Uber.
Uber?
Ouais.
UberX?
UberX, ouais.
Grâce à vous, on mange.
Ouais.
Merci. Quel est votre métier?
De femme et de ménage.
Quel point vous travaillez?
Médecin.
Moi, j'ai jamais arrêté de travailler, je suis infirmier.
Je suis le secrétaire du CHSCT de mon hôpital, donc là, je vais à une réunion de CHSCT.
Voilà. Non, mais c'est vrai que souvent, les médias considèrent les passagers des transports comme des passagers des transports. On ne sait pas très bien pourquoi ils sont là dans les transports, finalement. Ils sont réduits à leur état de passagers des transports. Mais effectivement, quand on va les interroger, on se rend compte que ce sont ou bien des soignants ou bien ceux qu'on a appelés pendant tout le confinement des combattants de deuxième ligne. Ce qui va un peu dans le sens de ce que vous disiez, Laura Varlet, sur le déconfinement, le déconfinement à deux vitesses.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on voit dans ce reportage, c'est que effectivement les petites mains invisibles que jusqu'ici tout le monde ignorait dans la société, qui ont été celles qui ont assuré que la société puisse continuer de tourner, que le nettoyage soit fait, que la sécurité soit respectée, que les soignants soient à l'hôpital, etc. Même les travailleurs des transports, voilà, qui sont ceux qui sont en train de conduire les trains et les métros et les bus. Et c'est ces petites mains invisibles qui sont au front depuis le début, c'est ce que je disais, et qui se retrouvent dans l'obligation et qui n'ont pas le choix que d'aller travailler. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens qu'on peut pas en vouloir quelque part, enfin j'ai envie de dire c'est ces mêmes personnes qui aujourd'hui ils portent un masque, ils ont la chance d'en avoir un, mais moi j'ai par exemple j'ai beaucoup de collègues du nettoyage dans les chemins de fer, dans les gares, etc., qui pendant toute la pandémie, toute la période où nous on était confinés, où il y avait beaucoup de gens qui étaient confinés, ben eux ils étaient en train de nettoyer les gares sans masque, sans gel, sans rien du tout. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, et que même s'ils n'arrivaient pas à avoir des masques dans les transports, j'ai envie de dire on peut pas leur en vouloir, parce que c'est un confinement qui a été très très mal organisé, avec aucun moyen, etc. Donc même ça on pourrait pas leur en vouloir entre guillemets.
Alors, dans les images du déconfinement qui ont suscité des réactions, et alors là, pour le coup, des réactions de réprobation, essentiellement sur les réseaux sociaux, il y a l'image de ces gens qui se sont précipités dans les magasins Zara, les magasins d'habillement Zara. Alors, ne me demandez pas pourquoi Zara et pourquoi pas d'autres marques, j'ai pas fait l'enquête approfondie, mais alors, les magasins Zara de Paris, de Lyon, de Bordeaux ont été pris d'assaut dès le déconfinement, alors suscitant des commentaires en général hautement réprobateurs, dont la tonalité générale était « mais enfin, voilà, c'est le déconfinement et ils n'ont rien de mieux à faire que de se précipiter pour acheter des pantalons ou des petits hauts ou des chaussettes ou des sous-vêtements ». Denis Colombi, que vous ont inspiré ces réactions?
Moi, ça m'a fait passer à des choses sur lesquelles j'ai travaillé pour mon livre, c'est sur les jugements portés sur les TPAS, notamment tes personnes les plus pauvres. On retrouve en fait un peu cette même logique. C'est pas pour dire que t'as les personnes qui faisaient la queue chez Zara ou ailleurs, il n'y avait que tes pauvres. En fait, on a ces rien. Il faudrait inquiéter ça tout précisément sur cette question-là. Mais on a ce même type de réaction. En fait, on est très rapidement, t'as le jugement et t'as le jugement individuel. Et individualise ça, c'est la faute de ces chats s'ils consomment, et où en fait on ne se pose pas la question ni, ou on se la pose très vaguement, ça comprend pourquoi ils consomment, ou simplement se poser la question sur pourquoi après tout les magasins sont restés ouverts, pourquoi les travailleurs sont à cette situation-là. D'ailleurs, pour revenir sur les images précédentes, on avait certes t'as les métros, tes travailleurs de première ligne, de la santé, de choses comme ça, on en a vu, t'as le reportage de Quotidien, un livreur de Uber Eats. Alors, le journaliste lui dit c'est grâce à vous qu'on mange, mais en même temps, on peut très bien mâcher ça passer par Uber. Et la question à se poser là-dessus, c'est peut-être pas pourquoi ce travailleur prend le métro, mais c'est pourquoi est-ce que déjà on peut souhaiter se faire livrer de la nourriture à ce moment-là? Pourquoi, en fait, pourquoi on a quelqu'un qui est dans une telle situation, qui ne peut pas refuser de faire cette activité-là, même s'il y a des risques pour sa santé là. C'est peut-être le même type de question qu'il faudrait se poser sur les matelassats. Ça peut déplacer le regard. Plutôt que le mettre du côté de la consommation, qui ça, c'est la faute de ces consommateurs qui sont immoraux, qui se comportent mal, qui se contrôlent mal. Peut-être se poser la question en termes d'organisation du travail, d'organisation collective, et peut-être sur le côté de la production, qui est aussi à cause. Après tout, si les matelassats ouvrent et ouvrent à des conditions telles qu'il peut y avoir la queue, c'est peut-être ça aussi qu'on peut interroger, et ça sera d'ailleurs peut-être plus efficace du point de vue de la prévention, si on souhaite prévenir la pandémie, de se poser cette question-là, plutôt que de juste dire aux chats, ces papiers ne sortez pas.
Ouais, et c'est bien de votre, ce qui est intéressant dans votre démarche à vous et dans votre livre, c'est que effectivement, vous mettez en lumière toutes les questions que les gens ne se posent pas. Il y a les questions apparentes, effectivement, les curiosités apparentes, puis il y a toutes les questions qu'on ne se pose pas. Alors, juste pour rester sur Zara une seconde, moi, pour plaider coupable, quand j'ai découvert cette image des files d'attente devant chez Zara, ma toute première réaction, dans la seconde qui a suivi, j'étais effondré. Je me suis dit, moi, j'ai passé le confinement à m'interroger sur le monde d'après, qu'est-ce que ça va changer à nos modes de consommation, est-ce qu'on va enfin en finir avec la mondialisation, etc. Tac, ruée chez Zara, je me dis, ben voilà, tout va recommencer comme avant, la fringue mondialisée, etc. Donc, j'ai été moi-même dans le jugement moral.
Oui, je pense que t'as la période actuelle, c'est assez difficile, tu joues pas. Il y a eu tellement d'attentes, qu'il y a tellement de discours, de tribunes, on a eu sur tous les temps, sur le mode d'après, tout va chercher, etc. Et les premières images qu'on en a, c'est t'apportes des images qui montrent que ça ne change pas, et puis qu'un certain nombre de personnes, au moins, ça doute, souhaitent continuer comme avant. Je sais pas exactement pourquoi les gens faisaient la queue de Vassara, on peut imaginer toutes sortes de raisons, on peut faire plusieurs hypothèses.
Pour acheter des habits.
Oui, pour acheter tes vêtements, mais pourquoi à ce moment-là, de cette façon-là, une des raisons possibles, une hypothèse qu'on pourrait poser, c'est qu'ils soient vifs de reprendre une vie normale, et dans cette vie normale, il y a à acheter tes vêtements, c'est un moyen de se faire plaisir, on s'est privé pendant un certain temps. Après, il y a aussi peut-être des choses de l'ordre de la contrainte, on peut imaginer que les enfants au travail, il faut des nouveaux vêtements pour eux, on peut imaginer qu'il faut retourner au travail, il faut peut-être renouveler un peu sa carte robe parce que le climat a chaché, l'été approche. Voilà, on a toutes sortes de choses comme ça, mais je pense que c'est intéressant quand même de sortir un peu de ce jugement moral, ou de déplacer le regard, en tout cas, de pas rester sur c'est les consommateurs qui sont le problème, c'est une organisation qui est collective. Il faut se poser la question comment ça se fait que ce soit possible que ce type de queue ait lieu, que les chats se livrent à ce comportement-là. C'est pas simplement eux, c'est aussi l'organisation qui est au film. Les messages qui ont été envoyés politiquement sont quand même assez compliqués. D'un côté, on a dit il faut retourner au travail, il faut reprendre une vie normale, on va pousser l'ouverture des écoles assez rapidement, même si les enseignants n'étaient pas toujours très confiants sur la façon dont ça pouvait être organisé. On a dit aussi il faut que l'économie reparte. Et puis, d'un autre côté, on va dire à ces mêmes personnes, oui, mais en fait, il faudrait que vous restiez chez vous et que vous ne preniez pas de risques, que vous n'alliez pas consommer. En fait, on a des discours qui sont divergents, on a des systèmes normatifs qui sont incomplets, sur lesquels on peut interpréter, dans lesquels on peut se glisser, pour finalement, tout le monde aura une bonne raison d'aller faire ses tours à vos matonnets à ce moment-là. Tout le monde aura une bonne raison de sortir. C'est au niveau de la règle, au niveau du collectif, au niveau du travail, au niveau de la politique que la question devrait se poser.
Laura Varlet, sur cette image de file d'attente devant chez Zara, vous l'avez découverte, comme beaucoup de gens, sur les réseaux sociaux ?
Oui, 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 on a vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux.
Et alors, votre toute première réaction à vous, quand vous la découvrez, cette image, vous pensez quoi, immédiatement ?
Moi, personnellement, je n'irai pas chez Zara faire mes courses, mais après, franchement, c'est un peu la même réaction de ce que disait Denis, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a un discours totalement contradictoire qui est porté notamment par le gouvernement. D'un côté, il faut relancer la consommation, il faut relancer la machine économique. De l'autre côté, il faut faire attention, il faut savoir que le plan pour que ces deux choses puissent exister, par exemple, le gouvernement a annoncé ces 100 000 tests par jour, qu'on ne sait même pas encore où ils sont passés, parce que c'est des choses qu'ils annoncent mais qu'ils ne mettent pas en place. Pareil pour les masques, on dit aux gens il faut porter un masque, mais quand on est au chômage partiel, quand on n'a pas suffisamment d'argent, etc., on met rien en place pour que les gens ils aient des masques gratuits, par exemple. Enfin, tout ça, en fait, ça alimente un discours totalement un peu schizophrénique. Enfin, je sais pas, c'est totalement contradictoire. Du coup, moi, je comprends. Enfin, on peut pas en vouloir aux gens parce qu'ils ont envie d'aller acheter des vêtements ou parce qu'ils ont envie d'aller se poser au bord du canal pour se détendre après deux mois d'avoir été enfermés. Et en même temps, voilà, leur dire faut absolument aller travailler. Enfin, on a le droit d'aller travailler, de risquer nos vies pour aller remplir les poches de nos patrons, mais par contre, on n'a pas le droit de se détendre avec nos amis, etc., ou aller.
Non, mais attention, parce que la réprobation devant les gens qui allaient acheter du Zara, là, c'était pas une réprobation. C'est pas les ministres hein, qui ont exprimé cette réprobation. C'est des gens sur les réseaux sociaux. Alors, je sais pas très bien. On sait. Voilà.
Oui, mais pour moi, c'est un discours qui a alimenté ce discours contradictoire, justement, alimente. À la fois, on dit faut relancer la machine et en même temps, on dit faut rester chez vous, faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc. Ça, c'est un truc qui est porté beaucoup par un discours à la fois médiatique et gouvernemental. Et je pense que ça fait que les gens, ils ont des réactions à ne pas approuver certains comportements parce que il y a ce discours contradictoire qui est peut-être mis en avant en permanence.
Peut-être, mais toujours est-il que nous, on a cherché pour cette émission, par exemple, des émissions sur les chaînes d'info exprimant la même réprobation par rapport aux gens qui vont chez Zara. On les a pas trouvés, donc c'est vraiment c'est sur les réseaux sociaux que ça s'est exprimé. Oui, Denis Colombier.
Mais on a eu quand même une réaction politique sur les chats qui allaient boire des verres sur le canal Saint-Martin.
Voilà.
On a fermé le canal Saint-Martin, on les a évacués. Et là, c'est bien justement une question de règles. À partir du moment où aux personnes, on va reprendre une vie, on va commencer à reprendre une vie normale et on va laisser ouvert un espace comme le canal Saint-Martin, il est inévitable qu'un certain nombre de personnes souhaitent le faire.
Alors, c'est bien que vous en parliez parce que effectivement, à la différence des clients de Zara, les pique-niqueurs ou les gens qui sont allés se détendre au bord du canal Saint-Martin, alors ceux-là, les chaînes d'info ne les ont pas ratés. On écoute.
J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de masques et peu de distanciation physique, docteur Sebag.
Il n'y a ni distanciation, ni masque, les bras m'en tombent et les gens se punissent d'eux-mêmes. Parce que dans les 3 semaines qui viennent, s'il y a vraiment plus que des vaguelettes, pour le moment, on parlera peut-être des clusters, c'est peut-être des petites vagues, mais si ça explose vraiment, ben, on reconfinera. J'ai l'impression de voir les images du début du confinement où on a montré pendant les premiers jours, les gens n'avaient pas compris. Je pensais que les gens, après 2 mois de confinement, auraient compris, ben, pas du tout.
Alors ça, ce sont des images ce soir au canal Saint-Martin. Ce sont des jeunes. Voilà, je vous entends crier un peu. Hein, je vous entends soupirer, et être très inquiet quand même, hein, parce que c'est vrai que aucun masque, aucune distanciation, au contraire. Hein.
Mais les médecins en premier n'ont pas envie de revivre ce qu'ils ont vécu.
Charlotte Onfroy, comment ces jeunes qui sont installés là tranquillement, sans masque et sans distanciation physique, vous ont parlé? Comment ils expliquent leur situation? Ils n'ont pas de soucis.
Écoutez, clairement, la distanciation physique n'est pas respectée. Vous pouvez le voir pour ces images. Alors, on est loin des soirées estivales avec des groupes très nombreux, avec plusieurs dizaines de personnes, de jeunes qui se rassemblent. On est loin vraiment de ces scènes-là. Mais il est vrai qu'il y a quand même du monde. On est en général sur des groupes de 3-4 personnes qui sont assez proches. Vous voyez, ils ne portent pas de masque. Certains partagent même des verres, des boissons alcoolisées. Certains boivent même dans les mêmes verres. C'est ce qui peut être un petit peu inquiétant sur ces images.
Bon, alors là, il y a clairement, si vous voulez, du jugement moral qui est exprimé, hein, du jugement à la fois sanitaire et moral. Moi, j'ai envie de dire, Denis Colombier, est-ce qu'il n'est pas justifié? Parce que, de fait, effectivement, ces gens se mettent en danger les uns les autres.
En fait, ils se mettent attachés, sans doute, mais on les décrit comme inconscients. Et je suis pas certain du tout qu'ils soient nécessairement inconscients des risques qu'ils prennent. Aujourd'hui, ils peuvent être parfaitement conscients, mais pour toutes sortes de raisons, se dire que le jeu a vaut la chandelle. Ça m'a fait passer, moi, spontanément, des images que j'ai vues, c'était un reportage aux États-Unis sur des sprint breakers. Donc les chats qui étaient sédutiers, qui vont faire la fête, le Spring Break, c'est les vacances prata de l'université, donc ce sont des grosses fêtes fortement alcoolisées. Et qui disait, il y en avait un notamment qui disait, ben moi, après tout, je veux pas me priver de ça à cause de la maladie, à cause du Covid, donc si je l'attrape, je l'attrape, c'est pas grave, je l'assume. Et c'est finalement quelque chose qui est rationnel et il est aussi à des risques et c'est pas possible.
Bah, oui, mais attendez, en général, ces gens sont plutôt des jeunes, hein, des vingtenaires, des trentenaires, des cadres. Donc, effectivement, eux prennent des risques limités puisqu'on a vu que les victimes de la maladie ne se comptaient pas de manière privilégiée parmi les jeunes. Mais en revanche, ils font prendre des risques aux vieux.
Oui, bien sûr. Non, mais il y a effectivement un problème. Simplement, ce problème, c'est pas un problème peut-être aussi assuré, c'est un problème aussi de lecture intellectuelle du problème. On leur dit finalement, c'est de votre responsabilité et de votre responsabilité individuelle à vous seul de vous protéger. Ben, les personnes réagissent en individu. Eux prennent des risques et s'assument. Si ils peuvent se dire, après tout, si les personnes plus âgées ne veulent pas prendre de risques, c'est à elles de ne pas sortir. C'est un côté rationnel. Je t'effraie pas ce raisonnement.
Rationnel et totalement égoïste, pardonnez-moi.
Totalement égoïste. Mais qui découle de la façon dont est cadré le problème au niveau politique. Lorsque comme le dit le médecin, t'as la vidéo. Ces personnes-là, ça va être terrible pour eux parce qu'elles vont retomber malades. Et ça va être terrible pour eux parce qu'elles vont retoffiner. Lorsque tu dis ça, et ben, les personnes peuvent le recevoir. Ben, à dire ça, après tout, moi, j'assume. Ce qu'on a dit, t'as très la chose comme un problème de morale ou c'est pas bien ce que vous faites. J'ai envie de comparer ça, c'est peut-être audacieux de ma part, mais j'ai envie de comparer ça au pape qui dit pour lutter contre le sida, il faut juste que les chats s'abstiennent. Il faut juste pratiquer l'abstinence. On sait que ça n'a pas été très très efficace dans la lutte contre le sida. Par contre, les politiques de réduction des risques, où on a expliqué aux personnes quels étaient les risques, on leur a mis à disposition des moyens de se protéger, où on a fait confiance à leur intelligence plutôt que simplement de les punir et de les rendre responsables de tous les maux, ont été beaucoup plus efficaces. Et c'est ça tout le même char de choses, le même char de situation par rapport auquel on se trouve. Peut-être que plutôt que la réprobation morale qui est très limitée des politiques de réduction des risques, des explications, la mise à disposition de masques, de choses comme ça, serait peut-être considérablement plus efficace. En tout cas, il y a un gros corpus, c'est pas ma spécialité, mais il y a un gros corpus de savoir sociologique, de sciences sociales sur une épidémie comme le sida et sur beaucoup d'autres. On aurait intérêt à beaucoup s'en inspirer plutôt que de simplement passer à l'appréciation morale qui a une efficacité extrêmement limitée.
Et c'est vrai, encore une fois, quelque chose qu'on ne voit pas dans l'image, mais c'est vrai que le fait de faire de la réprobation morale sur les gens qui vont sur les bords du canal Saint-Martin évite effectivement de s'interroger sur la question de savoir s'il n'aurait pas fallu fournir des masques gratuitement à toute la population.
Oui, ça évite de se poser la question. S'il n'aurait pas fallu organiser l'ouverture même de l'espace comme le canal Saint-Martin autrement, s'il fallait pas l'interdire dès le début. Enfin voilà, c'est toutes ces questions d'organisation collective, de politique, qui ne sont pas posées au profit simplement d'une réprobation morale.
Ce qui est finalement un mécanisme traditionnel de la télévision qui a besoin de montrer des images, et il est plus facile de montrer les images des gens qui sont assis au bord du canal que les images des dirigeants et des technocrates qui ont négligé ou qui ont refusé de mettre les masques gratuitement à disposition. Laura Varlet, sur la réprobation politico-médiatique à l'égard de ces buveurs du canal Saint-Martin.
Ouais, ben je partage entièrement les propos de Denis là-dessus. Je trouve que c'est une solution de facilité, on va dire, de faire cette réprobation morale sur les gens qui décident après 2 mois de confinement d'aller se balader ou aller se poser, aller prendre l'air, etc. Au lieu de prendre à bras le corps le problème réel d'organisation d'une solution face à la pandémie. Je disais tout à l'heure les tests, les masques, etc. Et par rapport à ce qu'on disait précédemment, enfin, certes, la réprobation morale, elle vient pas du Premier ministre en lui-même. Il part pas, il va pas commenter la queue à Zara, etc. Mais par contre, il insiste à chaque prise de parole télévisée, que la responsabilité, c'est chacun qu'il faut qu'il fasse attention, etc. Donc, il y a une forme d'incitation à une culpabilisation et à une réprobation morale sur les comportements individuels au lieu de penser le problème collectivement, des réponses collectives politiques à la hauteur.
Et c'était encore plus net sur le canal Saint-Martin, puisque dès le lendemain, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a refusé d'ouvrir les parcs et jardins parisiens, ce qui était une demande de la maire de Paris, Anne Hidalgo, en lui disant « Non mais attendez, vous avez vu ce qui se passe au canal Saint-Martin, on va quand même pas rouvrir les parcs et jardins parisiens. » Et d'ailleurs, le confinement, à l'origine, il y a 2 mois, avait été décidé de la même manière après des images semblables de Parisiens qui se promenaient sur les bords de Seine, où, si je me souviens bien… au parc des Buttes-Chaumont. Alors, pendant le confinement lui-même, on a eu des phénomènes de même nature. Par exemple, quand la chaîne de fast-food bien connue, McDonald's, a décidé de rouvrir ses drives, suscitant de longues files d'attente automobiles, le ton était un peu le même, on écoute.
Ce matin, je vous emmène en Seine-et-Marne, à Moissy-Cramayel, plus exactement, et même plus exactement encore dans la zone industrielle. Vous allez voir des images assez rares. En ce moment, c'était lundi, en plein confinement. Regardez, des bouchons interminables. Il y a une raison à cet embouteillage de plusieurs kilomètres. Tu l'as évoqué, Christophe. Le but ultime de ces voitures, c'est atteindre le drive du McDonald's qui a rouvert lundi. Voilà, 3 heures d'attente pour un Big Mac ou un Happy Meal. À croire que c'est ce qui a le plus manqué pendant le confinement.
Tu te rends pas compte.
Tu en rêves. Tu étais l'une des voitures.
Non, j'ai les enfants.
Les enfants.
Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que, bon, on a une journaliste qui est très surprise, qui est sur le ton de la réprobation amusée, et un autre journaliste qui doit être un père de famille et qui, j'imagine, a dû vivre le phénomène dans son foyer. Denis Colombi?
On a eu pour également pour toute de réprobation une fois de plus assez violente sur les réseaux sociaux, et là on a une illustration en fait des façons de chucher de façon négative ce type de consommation. D'une part, on chuche assez fortement quelque chose comme le fait d'aller chez McDo. Pour tout moins, par exemple, je me souviens au début de l'épidémie, on a eu plusieurs appels, notamment de Bernard Pivot, à carter les librairies ouvertes. Ça n'a pas soulevé un type d'indignation que déjà veuille en fait maintenir des commerces ouverts qui auraient pu être des lieux de tâcher, puis surtout te mise à tâcher d'une partie de la population.
Mais alors, qu'est-ce que ça dit, cette indignation à deux vitesses, en fait?
Ben, on s'indigne contre la consommation au McDo parce que c'est une consommation qui est plutôt attachée à les représentations aux classes populaires. De la même façon qu'on s'indignait plus facilement déjà d'y aller chez Zara parce que c'est du prêt-à-porter féminin. Il faut pas acheter des collections féminines, hein, mais c'est identifié comme une marque d'apport féminine. Donc, ce sont des activités quand même de groupes, les femmes, les classes populaires, qui ont certains stigmates déjà de la société. C'est des indignations qui ne se font pas au hasard. Et dans les deux cas, on va avoir trop 2 versions de ce type d'indignation. Il y a une indignation plutôt, on va dire, de droite, qui va consister à dire « Ah, ben, en fait, c'est des gens qui sont soit immoraux, soit qui sont stupides, qui ne savent pas gérer leur achat, qui ne savent pas se contrôler, qui ne savent pas se retenir, qui ne savent pas épargner. » Puis on va avoir une indignation de gauche qui va dire « Ce sont des gens qui sont manipulés par l'ultra-capitalisme mondial et qui se retrouvent à aller faire la queue pour Big Mac. »
Mais c'est atroce cette manière dont vous déconstruisez nos indignations. On peut plus s'indigner tranquille alors, avec vous.
J'essaie d'amener les gens à voir les choses telles qu'elles sont. Après, il y aura toujours possibilité de s'aligner, hein, mais peut-être de s'aligner différemment, de s'aligner sur autre chose. Sur la question, par exemple, des fils de Macho, ben, on peut se poser la question de les travailleurs de Macho, de tout ça, qui eux sont retournés au travail. Est-ce qu'ils ne sont pas plus mis attachés? Est-ce que c'est pas plus un problème, peut-être, que le fait qu'il y ait déjà qui fasse la queue pour un Big Mac? On peut se poser sans cesse la question comment c'est produit. Mon travail n'est pas, évidemment pas de défendre McDonald's. Le problème, il est peut-être ailleurs. Si on veut s'aligner contre McDonald's, peut-être moins s'aligner contre les personnes qui consomment, parce qu'après tout, ils le font comme l'évoquait le journaliste, pour les SAFA, et c'est un moyen peut-être de leur dire, voilà, on est confiné, mais quand même, on a une vie normale, on peut aller au McDo, on peut mâcher du McDo, il s'aime bien ça, etc. Et peut-être plus se poser la question, tes conditions de travail, tes productions, ce genre de choses.
Sur le McDo, Laura Varlet?
Bah oui, je partage un peu ce que disait Denis, encore une fois, mais moi, ça m'a évoqué les images, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les images de supermarchés en banlieue parisienne, notamment la banlieue nord, encore une fois, au début du confinement, où on avait des images où on disait les gens, c'est des sauvages, etc. Ils se battent pour des packs d'eau, des choses comme ça. Et moi, ça me... Cette réprobation morale aussi qui retombe toujours sur les mêmes, entre guillemets, comme disait Denis, c'est clair et c'est lié pour moi à un manque de plan d'ensemble de solutions face à la pandémie. Quand on commence à évoquer des pénuries, qu'on commence à évoquer, à laisser courir, y compris des idées comme ça, où il n'y a aucun plan, aucune visibilité sur ce qui va se passer, sur quelles sont les réponses que l'État et le gouvernement va mettre en place pour répondre aux problématiques, ben en fait, c'est normal que les gens ils s'inquiètent, ils ne savent même pas s'ils vont garder leur travail, s'ils vont pouvoir aller s'acheter à manger, s'ils vont avoir suffisamment d'argent, s'ils vont avoir suffisamment de nourriture pour se nourrir, etc. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas demander aux gens d'avoir des comportements entre guillemets sécuritaires d'un point de vue sanitaire ou autre, quand même d'un point de vue de l'État, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est organisé pour gérer une pandémie, alors qu'ils savent depuis le mois de décembre qu'il y a cette situation qui va arriver. Donc ça,
C'est vrai que sur le McDo, ça ne peut pas ne pas rappeler un épisode qui était survenu il y a quelques années, un épisode un peu comparable, l'épisode dit des émeutes du Nutella. On va voir un extrait. Quand vous disiez, Denis Colombi, que finalement, droite ou gauche, on a toujours de bonnes raisons de s'indigner. En fait, il y a une indignation de droite, une indignation de gauche devant des comportements de consommation en apparence aberrants. Je vais vous faire entendre l'indignation d'un aventurier, d'un explorateur, d'un sportif de l'extrême, Patrick Franceschi, qui, au moment des fameuses émeutes du Nutella, vous vous souvenez, une chaîne de supermarchés Intermarché avait fait des promotions sur le Nutella, ce qui avait donné lieu effectivement, je ne sais pas comment qualifier d'ailleurs, à des achats importants et massifs. Donc cet aventurier, Patrick Franceschi, était sur le plateau de France 5.
Franceschi, des gens qui en viennent aux mains parfois dans des supermarchés pour du Nutella ou des couches en promotion, ça dit quoi de la société française selon vous ?
C'est très emblématique. Écoutez, moi, en 1992, il se trouve que j'étais en Somalie, à l'époque de la grande famine qui a tué des centaines de milliers de gens. Et j'ai vu des scènes de bousculade auprès de centres de nourriture. C'était des fûts de 200 litres pleins d'une bouillie, où les gens somaliens se précipitaient dedans, tête la première pour manger. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de Somaliens qui sont morts à l'époque. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pour moi que du pathétique à voir ça. Parce que la tragédie qu'ils vivaient était épouvantable et que se jeter dans la nourriture dont ils n'avaient pas eu pendant des mois était tout à fait logique et j'aurais certainement fait la même chose. Que je sache, j'étais absent de France un certain temps, on ne meurt pas en France de faim au point de se bousculer pour une pâte à tartiner. Qui est-ce qu'elle est ? C'est pas le sujet. Je trouve dommage pour la dignité humaine d'aller se bousculer pour quelques francs, quelques euros, tout ce que vous voulez, ou pour ça. C'est dommage. C'est emblématique, finalement, du consumérisme dans lequel on se trouve. Je veux dire, des gens préoccupés d'abord de leur liberté plutôt que de leur confort ou de leur façon de consommer ne se prêteraient pas à ce jeu, même refuseraient catégoriquement d'entrer là-dedans.
Alors,
et c'est pas une question de faim, d'argent, en réalité. C'est une question d'unité d'honneur, pour moi.
Alors, Denis Colombi, comment vous caractériseriez, vous qui êtes spécialiste de nos indignations, finalement, et de l'aveuglement de nos indignations, comment vous caractériseriez cette indignation de Patrice Franceschi?
Je ne sais pas si je suis spécialiste de cette indignation, mais là-dessus, c'est les émeutes Nutella, c'est quelque chose que j'ai traité dans mon livre. Déjà, je trouve le nom et la façon dont on présente les choses, émeutes, assez amusant. C'était pas des émeutes. Et comparer ça avec, alors je connais pas spécifiquement la situation somalienne, mais ça m'a l'air extrêmement différent. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, il y a eu des postulates. Même au début du confinement, il s'agissait d'acheter du papier toilette à masse et voilà, c'est raconté beaucoup d'histoires là-dessus aussi. ça a jamais été violable.
Bien sûr, mais enfin, j'ai envie de vous dire, ça, c'est de l'hyperbole journalistique classique, quoi.
Oui, mais elle est quand même intéressante, cette hyperbole, parce qu'elle s'applique pas à n'importe quoi. Lorsque ce sont tes scènes de députés soldes, qu'on a tes chats qui ratent les matchassa rapidement, on n'a pas ce même discours, tes mains, c'est limite du folklore, on est content de te montrer ces images. Je pense aussi, moi, à tes chats où on a eu tes chats qui se sont postulés ou qui ont fait la queue très longtemps pour tes musiciens, pour tes concerts, etc. Ça montre les vrais fans, les choses comme ça. On n'a pas ce type d'indignation. Ça arrive quand même sur quelque chose d'extrêmement particulier. Et on ne se pose pas la question, Chouchou, aussi de pourquoi. C'est, il ne devrait pas le faire, là, la personne nous dit c'est pour une question d'honneur. Dans le cas du Nutella, par exemple, c'est effectivement ça, toutes les populations relativement pauvres qui ont voulu profiter de cette promotion-là, c'est celle qui consomme le plus, les classes populaires, le Nutella. Il est beaucoup moins consommé, t'as les classes supérieures. Et en fait, c'est parce que le Nutella, la consommation de Nutella ou de pâte à tartiner, hein, est liée au safran. C'est un moyen de leur faire plaisir. C'est ce que j'appelle un luxe accessible. C'est finalement à la fois cher et pas cher. C'est cher parce que, pour ce que c'est, ça peut s'appeler de l'intérieur relativement coûteux. C'est pas cher parce que c'est quelque chose qui fait plaisir au SAFA, qui permet de se conformer à la norme de faire plaisir au SAFA de façon relativement économe, de leur faire, de relâcher le sentiment de privation que les SAFA peuvent avoir lorsqu'ils sont à des ménages pauvres. Et en fait, dans ce cas-là, c'est tout à fait normal d'essayer de profiter d'une telle promotion qui est en plus relativement importante pour la conserver, pour la stocker et pour la garder, pour pouvoir le consommer pendant un certain temps lorsque les SAFA réclameraient.
Donc, en fait, enfin, vous dites c'est normal, mais je ne sais pas ce qui est normal. On pourrait aussi considérer normal de procurer à ses enfants une alimentation saine. Et on sait que le Nutella n'est pas spécialement bon pour la santé, d'essayer de leur faire manger écolo aussi. Le Nutella, c'est plein d'huile de palme, etc. Donc, est-ce qu'il y a une norme?
Oui, il y a des normes. Il y a la norme que quand même, on doit faire plaisir à ses SAFA. C'est une norme qui est assez générale dans la société. Un peu auparavant, essaye de t'offrir tes plaisirs à ses SAFA, pas à permanence. Mais c'est pas parce que les chats achètent une Nutella qu'ils ne nourrissent leurs SAFA que de ça. Ils doivent leur faire plaisir à un moment donné, ils doivent les protéger de la privation. Le Nutella joue ce rôle-là, le match d'eau aussi joue ce rôle-là. T'as les familles populaires de façon accessible. T'as tes familles plus fortunés, ça sera plus facile de leur faire plaisir autrement. Peut-être qu'on leur donnera une alimentation plus saine, plus équilibrée, etc. Mais lorsqu'ils réclameront un iPad, on pourra le leur acheter.
Attendez, je voudrais vous faire entendre une autre réprobation un peu moqueuse sur un autre objet de consommation qui est un autre usual suspect, si j'ose dire, de la mauvaise consommation, entre guillemets. C'est sur France Inter, l'humoriste Guillaume Meurice commentant la sortie du dernier modèle d'iPhone.
J'ai rencontré tous les gens qui attendaient depuis des heures pour acheter le Graal, l'iPhone 10. Quel est le prix ?
Seulement 1329 pour un 256 gigas, c'est étonnant, un prix si bas.
Seulement 1329.
C'est étonnant, hein ? Seulement.
Voilà, 1329 € un téléphone. Alors la vaseline n'est pas comprise dans le prix, hein, ça va rajouter un petit supplément. Mais bon, un enfant chinois, ça se paye, hein. Le cours du coup de fouet dans la gueule est en nette hausse à la bourse de Pékin. Mais ça vaut la peine, je vous le dis, ça vaut la peine, parce que c'est un téléphone extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a de spécial ?
Bon, de spécial, d'après ce qu'on a vu sur Internet... C'est une nouveauté. Je crois pas s'il a grand chose de spécial. Il doit être comme tous les téléphones, mais. C'est nouveau.
C'est nouveau, mais c'est déjà pas mal. C'est pas un téléphone à cadran. Voilà, sachez.
Alors là, on a de la réprobation moqueuse qui ne s'adresse pas, Denis Colombi, spécifiquement aux pauvres.
Oui.
Qui s'adresse à un type de consommation.
Oui, là, ça s'adresse à une consommation. Une consommation, en fait, on peut le passer de fans qui veulent à tout prix avoir le dernier objet dernier objet à la vente. Ce qui est dommage dans ce commentaire, outre la remarque pas très subtile sur la vaseline et la sexualité, ce genre de choses, c'est toujours un peu problématique. Ce qui me semble pas très subtil, c'est qu'au moment où on a quelque chose qui, sur le plan critique, et qui a plus un gros potentiel humoristique, qui serait plus intéressant, qui est les coefficients de propulsion du téléphone, on passe plutôt à vous voyez, les consommateurs ne savent même pas ce qu'ils s'achètent. Est-ce que c'est vraiment le plus problématique d'avoir quelque chose comme l'iPhone? Est-ce que c'est pas plutôt les modes de production, la pollution, ce genre de choses? Enfin, il y aurait des questions à poser là. C'est plus facile de juger le consommateur que de s'intéresser, de juger les conditions de production.
Laura Varlet.
Ouais, mais moi, ce que je vois dans ces images, c'est pas des individus ou des consommateurs individuels qui ont des comportements totalement scandaleux, mais je vois plutôt une société capitaliste de consommation qui est totalement malade, quoi. C'est ça plutôt que, enfin, pour moi, c'est des reflets en fait de comment la société est organisée, de comment les normes sociales de consommation sont organisées. Et derrière, il y a évidemment toute la problématique de comment ces biens de consommation sont produits, etc. Mais pour moi, le principal monsieur, problème...
Le monsieur qui va acheter l'iPhone, là, et qu'on interroge et on lui demande « Mais pourquoi vous allez l'acheter ?» Finalement, il ne sait pas. Vous le considérez comme une victime des normes capitalistes de consommation, Laura Varlet ?
Ben, je pense qu'il y a, oui, qu'il y a une forme d'injonction sociale permanente à la consommation, qui est organisée par un système qui a besoin de vendre sans arrêt des produits qui en plus sont dont l'obsolescence est programmée par ailleurs pour devoir l'acheter à nouveau dans quelques mois, etc. Mais oui, il y a une forme d'injonction permanente morale. Sociale à devoir acheter.
Là, on est d'accord, mais la question, c'est comment qualifier les personnes qui obéissent à cette injonction, des victimes ou des complices?
Moi, je dirais pas. Oui, il y a une forme de victime quelque part. Enfin, dans le sens où on est quelque part, on est obligé. On peut pas s'abstraire, se soustraire en fait de cette société de consommation. Je pense que ça, c'est impossible. En fait, pour moi, personnellement, je pense qu'il faut construire une autre société sur d'autres bases. Mais oui, je pense que.
Ouais,
c'est,
mais là,
c'est...
vous voyez, c'est dangereux parce que si nous-mêmes on se laisse aller à considérer ces personnes comme des victimes, là, j'imagine que Denis Colombi va nous dire oui, mais vous faites de la commisération, etc. Ils sont pas plus victimes que n'importe qui. Ils sont pleinement conscients de ce qu'ils font. Non, mais Denis Colombi, là-dessus.
Ce que je dirais, c'est qu'en fait, on fait tout ça pour des choses différentes. Et qu'en fait, il faut les considérer. On a tendance à considérer ces comportements comme exceptionnels et à vouloir à la fois les individualiser, les psychologiser. Ce serait des personnalités caractéristiques propres de ces personnes-là. En fait, c'est des comportements économiques qu'on va avoir de piètes et façons. Si c'est pas sur l'iPhone, il y a probablement d'autres pièces, d'autres services sur lesquels on achète sans savoir trop pourquoi on les achète, sans pouvoir expliquer à détail pourquoi on les achète ou des choses comme ça. C'est de la consommation normale. Et une fois de plus, le passer à un niveau de l'appréciation morale, du jugement moral, de la condamnation morale, et ça tout de moins efficace que de trouver d'autres formes de discours critique qu'on peut avoir dessus.
Non, mais ce qu'exprimait Laura Varlet, c'était pas de la condamnation, c'était une forme de, comment dire, de compassion ou de commisération ou de, vous voyez ce que je veux dire, devant ces gens qui sont soumis à cette injonction et qui finalement y obéissent. On est dans une autre forme peut-être de jugement. Je sais pas, hein, je pose la question.
Oui, on peut essayer de les voir comme victimes. Je dirais qu'on est tous pris dans ce système de capitaliste de production, de consommation aussi. Sur l'iPhone, je pense que les vraies victimes sont sans doute plutôt une fois de plus les travailleurs qui produisent. Les consommateurs sont finalement, même si on les voit comme victimes, finalement, ils ne s'en sortent pas si mal que ça. Et à choisir la position entre les deux, je pense que tout le monde fera le même choix. Il vaut mieux consommer l'iPhone que de le produire, ça tout. Lorsqu'on est le patron d'Apple, peut-être que ça va un peu mieux. Mais en tout cas, c'est ça, il me semble le simple appel, centrer le regard sur le consommateur et le consommateur individuel risque de mater le fait qu'en fait, c'est des formes de consommation qui sont extrêmement courantes.
Là-dessus, vous êtes tous les deux d'accord, c'est évident. Alors, je voudrais qu'on termine cette émission par un contre-pied, puisqu'on a beaucoup parlé de la réprobation sociale ou de l'ironie qui s'exerçait à l'égard des travailleurs, des pauvres, etc. Elle s'est aussi exercée à l'égard des bourgeois ou des riches ou des dominants, notamment lors du fameux épisode du confinement des Parisiens qui sont tous partis se confiner sous des cieux cléments à Belle-Île ou à Lille. Alors, on pourrait prendre plusieurs exemples. On va prendre l'exemple de ce reportage de CNews sur l'île de Ré, envahie par les Parisiens au début du confinement.
Arcachon, île de Ré, belle île en mer, les Parisiens sont nombreux à s'être mis au vert pour le confinement, mais ils ne sont pas forcément les bienvenus, Solène. Hein.
Leur présence fait craindre notamment une multiplication des contaminations.
Deux habitants se promènent sur cette plage de la Couarde-sur-Mer alors que l'accès y a été interdit. Pour eux, pas de danger.
Quand on va dans un magasin, on est beaucoup plus près des gens. Là, on est en couple, on voit personne. Je veux dire, où est-ce qu'il y a un risque de propagation ?
Problème, ce sont souvent les Parisiens propriétaires de résidences secondaires sur l'île de Ré qui ne respectent pas les règles de confinement imposées.
Ils ont été obligés de fermer les plages pour que les gens n'accèdent pas à la plage. Ils ferment les pistes cyclables pour que les gens ne circulent pas à vélo, comme s'ils étaient en vacances. Je veux dire, et nous, à côté de ça, on en pâtit aussi, quoi.
Alors, Denis Colombier, est-ce qu'on peut renvoyer dos à dos les deux types d'indignation médiatique, l'indignation médiatique contre les pauvres et là, l'indignation médiatique contre les riches, ou est-ce que vous y voyez des différences ?
Elles sont pas tout à fait de même nature. On s'attigne de l'inconscience, de l'inconséquence des pauvres, à généralement, avec cet élément qui suit toujours, c'est finalement pour ça qu'ils sont pauvres. C'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent, c'est parce qu'ils vont au match low, c'est parce qu'ils cachent leur argent à cette unité-là, qu'ils sont pauvres, et ils méritent bien leur situation. Là, on a des personnes qui sont, ça tout, aussi inconscientes de certains nombres de choses, même si une fois de plus, on voit, t'as le reportage, hein, lorsque le monsieur explique, voyez, je prends pas de risque, il y a personne autour de moi, on est plus à risque d'aller mettre à ça, qu'en fait, il a une réflexion critique, y compris sur les règles de confinement, qui a sa rationalité, qui a sa logique. On ne tire pas de conclusion là-dessus sur la situation économique des personnes. Et on ne va même pas se dire, mais en fait, ils ne méritent pas la richesse, ils ne méritent pas d'avoir une résidence secondaire, quelque chose comme ça. On va le voir simplement comme un problème personnel qui ne justifie ni ne remet à cause, finalement, les inégalités économiques. C'est-à-dire que sur les pauvres, on va y trouver une justification des inégalités économiques. Ça, c'est quand même assez rigolo comme différence.
Laura Varlet ?
Ouais, ben c'est intéressant ce que dit Denis. C'est vrai que j'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai. Et puis moi, en réalité, la réaction que j'ai quand je regarde ces images, c'est que je juge pas les personnes qui ont la possibilité quelque part d'aller ailleurs et de trouver une meilleure solution que rester confiné dans un appartement, dans un petit appartement à plusieurs personnes. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette forme de encore une fois à deux vitesses, quoi. Enfin, comme on a pu voir depuis le début de l'émission, quoi.
Enfin, en même temps, les Parisiens qui ont les moyens d'avoir une résidence secondaire à l'île de Ré, je n'imagine pas qu'ils vivent à 5 ou à 6 dans 50 mètres carrés à Paris.
Bien voilà. Sûr,
on,
c'est clair.
On n'imagine pas que ce soit ce type de population. Alors, je crois qu'il est temps de retrouver maintenant Laëlia Véron, qui nous suit en coulisses depuis le début de cette émission et qui a été extrêmement attentive, j'espère.
Non, je suis allée boire mon café. C'est
à tous les mots que nous avons prononcés ou pas.
Alors ouais, bah, je vais essayer. Bah, écoute, moi je croyais qu'on allait parler de pauvreté, mais... et du coup Daniel, j'avais prévu plein de choses qui allaient t'intéresser sur les mots pauvre et pauvreté, mais finalement on a plutôt parlé d'autres choses. Mais juste pour te dire, parce que je trouve ça intéressant, sur les connotations attachées au mot pauvreté, du coup j'avais regardé dans mon dictionnaire historique de la langue française et j'avais vu que pauvreté, pendant longtemps, notamment en ancien, en moyen français, ça avait été associé au mot malheur, au mot misère, et que par exemple pour désigner les organes génitaux, on appelait ça la pauvreté. La pauvreté, par exemple, la pauvreté des gens. Et pour dire faire ses, pour dire aller à la selle, on disait faire ses pauvretés. Donc, ça, point de vue bien connotation négative attachée au mot pauvre. Ça,
je suis sûr qu'il savait pas, Denis Colombier.
Non, je savais pas. Mais,
mais c'est assez hallucinant, hein, le sens de malheur, de misère. Faire la pauvreté pour dire coucher ensemble. Et ses pauvretés pour dire aller faire ses besoins. Et en plus, je pense que c'est assez intéressant parce que ça renvoie au corps aussi, au corps du pauvre, etc. Il y aurait plein de choses à dire dessus. Mais bon, ça, c'est pas tellement ce dont on a parlé dans l'émission. Donc, pour vraiment rebondir par rapport aux mots que vous avez utilisés, moi, ce qui m'a frappé, c'était en fait qu'on a parlé de mobilité. Et je voudrais revenir justement sur ça, sur ces mots pour dire la mobilité, le déplacement et l'imaginaire qui leur est associé, des autres mots qu'on retrouve autour de la mobilité, et avec toujours cet antagonisme de deux mots, contrainte et liberté. J'ai trouvé que c'était vraiment récurrent dans ce que vous disiez, et parce que effectivement, cette crise révèle des contradictions, des critères de jugement différents. On a beaucoup parlé de jugement aussi autour de cette notion de mobilité. Pourquoi ? Alors, si j'essaie de faire un petit bilan, au départ, on vit dans un monde économique où la mobilité est valorisée, que ce soit, enfin, c'est le principe de la mondialisation, on est d'accord, et ça se manifeste au niveau concret dans le fait de pouvoir prendre l'avion pour aller très vite, très loin, et ça se manifeste au niveau mental, c'est le principe du mot disruptif, hein, d'accord, par exemple, pouvoir changer très vite, innover très vite, s'adapter très vite, tout ça, c'est de la mobilité. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est des connotations positives attachées au mot mobilité qui sont assez récente quand on voit l'histoire du mot. Au départ, mobilité, ça veut dire inconstance. C'est instable, mais au sens péjoratif du terme. Et finalement, depuis quelques dizaines d'années, ça a pris un sens positif avec de nouveaux syntagmes qui sont apparus, mobilité sociale, mobilité professionnelle. Donc, on est dans un monde où généralement la mobilité, c'est plutôt vu de manière positive. Mais là, avec la situation, vu que c'est contrebalancé par la peur de la maladie, qu'on a le rester chez vous ou maintenant bouger le moins possible, eh ben, c'est contrebalancé par une certaine négativité. Et on va regarder, juger les personnes qui bougent, parce que aussi, bah, comme tu l'as rappelé, Daniel, c'est pas juste une question individuelle, ça va aussi avoir des conséquences à des moments sur d'autres personnes. Et il y a plusieurs choses qui m'intéressent par rapport à ce qui a été dit, c'est le fait, Denis, vous l'avez souligné, que la mobilité peut être une contrainte. Et justement.
Alors, je t'arrête une seconde, là, Elia, sauf erreur de ma part, on n'a pas prononcé le mot de mobilité dans cette émission.
Non,
on l'a pas prononcé. On a parlé de métro, de train, de bus, de gare.
Il y a un petit point commun.
RER,
entre ces mots-là. Justement, si tu veux que je te sorte des mots compliqués, on va dire que ce qui réunit ce champ lexical ou cette isotopie, c'est l'idée de mobilité avec l'idée genre de déplacement, de métro, etc. Et Denis a dit plusieurs fois le mot justement par rapport aux gens qui se déplacent en métro, l'idée de contrainte. Et justement, ça nous a, contre l'idée générale que voilà de mobilité, de liberté, ça nous rappelle que la mobilité peut être une contrainte et une nécessité. Vous avez dit aussi le mot nécessaire, et ça, on peut aussi le rattacher à la pauvreté. Hein. D'ailleurs, le pauvre, c'est aussi le nécessiteux, celui qui est soumis à la nécessité, un synonyme de pauvre nécessiteux. Et je pense d'ailleurs qu'on pourrait peut-être remettre ça aussi dans le temps long. Il y a des choses à des moments pour certaines personnes, justement celles qui sont dans la nécessité de se déplacer pour travailler, qui nous rappellent que la mobilité peut être une contrainte. Ça m'a fait penser aussi aux gilets jaunes, au fait qu'on ait rappelé, notamment avec le mouvement des gilets jaunes, que la voiture, qui est aussi dans l'imaginaire de certains, il suffit de voir la pub, le symbole de la liberté, de l'évasion, eh ben ça peut être aussi une contrainte, notamment une contrainte financière avec le prix de l'essence. Et donc je trouve ça intéressant parce que ce que vous disiez, ça nous fait repenser justement cette notion de la mobilité entre ces connotations contradictoires. Et aussi, vous avez aussi parlé beaucoup, ben forcément, des reportages et de ce qu'on voit et de ce qu'on peut représenter. Et il y avait une opposition constante dans votre discours, c'était les individus et le système. Sauf que dans les reportages, dans les images, eh ben on peut pas représenter le système. On représente des gens et des individus. Et donc on voit ceux et celles qui bougent, mais pas ceux et celles qui font bouger. Et regardez aussi, quand on a reparlé de consommation, de jugement sur la consommation, si on prend le principe d'un Uber Eats, on voit la personne qui va se déplacer pour livrer, on voit pas celle qui va commander et qui va faire se déplacer la personne. Et ça, c'est aussi très clairement une question riche-pauvre, hein, qui sont ceux qui bougent qui sont ceux qui bougent leur corps, hein, il y a aussi cette dimension-là, et qui sont ceux qui font bouger, et regarde aussi sur la dimension de jugement de la consommation, par exemple, on voit les gens qui bougent en faisant les queues pour le drive, par exemple à McDo. On ne voit pas ceux qui font bouger en commandant par du Uber Eats. Et ça, ça fait aussi que bah forcément, on va juger ce qu'on voit. On ne peut pas faire autrement, on va juger par ces incarnations-là. Et c'est pareil pour la consommation, on a dit, on voit les personnes qui consomment, pas celles qui organisent la consommation. Et je pense qu'on peut le dire d'un point de vue matériel, mais aussi idéologique, parce que si je me permets, moi, de dire mon avis sur votre débat, est-ce qu'on peut juger ou pas les personnes qui consomment ? Moi, je ne pense pas que c'est juste un problème conjoncturel, là, de discours contradictoires entre rester chez vous et consommer, mais c'est un problème plus général, puisque on sait que dans notre société, ça fait des années qu'on a associé la consommation à la liberté. Et de fait, on peut pas mettre ça en place pendant des années et là, pas se dire que ça va être pas juste un plaisir, mais une liberté d'aller consommer. Et je pense qu'on pourrait faire un lien entre cet imaginaire qui associe consommation et liberté, mobilité et liberté. On est environné de cet imaginaire-là en oubliant qu'il y a une contrainte. Et je pense que ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de la remettre dans le long terme. Et je voudrais quand même vous finir par une citation littéraire, parce que je suis aussi littéraire. C'est cette question du déplacement, mais dans un contexte un peu autre, dans les contextes ruraux. C'est Nicolas Mathieu qu'on avait parlé, l'écrivain Nicolas Mathieu qu'on avait parlé dans son livre « Leurs enfants après eux ». Et je vous cite une phrase qui me semble assez révélatrice lorsqu'il dit « Chaque désir induisait une distance, chaque plaisir nécessitait du carburant ». Voilà, on retrouve cette tension-là dans qu'est-ce qu'on a mis en place comme plaisir, comme désir, comme consommation dans notre société, et cette tension-là entre liberté et nécessité pour certains. Voilà pour moi.
Laura Marlet et Denis Colombier, une réaction à la réaction de Laëlia ?
Ben, moi, ça m'a fait passer spontanément sur la question de la mobilité, liberté. Ça m'a fait passer spontanément à ce qui a été mon sujet de travail auparavant, qui était la mobilité internationale, où on a une distinction entre le migrant, qui est toujours vu comme contraint, et l'expatrié, qui lui est toujours vu comme libre. Alors qu'en fait, les réalités sont beaucoup plus complexes. Certains expatriés sont contraints et les migrants, et notamment les migrants qui arrivent à France, exercent parfois une forme de liberté à se déplacer. Donc il y a ça, et puis il y a aussi évidemment, j'aime beaucoup le fait qu'on ait du mal à représenter le système par rapport à l'activité. Moi, j'aurais dit l'acteur et le système. C'est ma formation en sociologie des organisations qui me fait parler de ça plutôt. Effectivement, le système, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est l'organisation, en fait, il va rater possible chacun des actes que l'on a vu, est extrêmement difficile à représenter, que ce soit au niveau visuel, mais même au niveau littéraire. Ça peut être très difficile de rater l'existence de ce système, de tout ce qui entoure, tout ce qui rend possible le moindre comportement. Et ça, c'est un vrai défi de vulgarisation de la sociologie, de diffusion de la sociologie, d'arriver à représenter ce système, d'arriver à représenter les systèmes sociaux
au-delà de cette littérature.
Et de la littérature.
Et les littératures, c'est intéressant parce que cette question de la représentation et des médias aussi. Et sur ça me fait penser, si je peux rebondir dessus, il y a un livre qui s'appelle Cora dans la spirale de Vincent Message qui était sorti récemment, je crois cette année, qui essaye aussi justement de représenter cette spirale, le système. Mais on a besoin d'un individu support pour arriver à la représentation.
Une spirale, c'est compliqué, mais le système, on peut toujours avoir recours à la caricature du capitaliste avec un haut de forme et un gros cigare. Hein,
du coup, c'est vrai qu'on va, du coup, on va rediriger l'indignation sur des personnes au lieu, ça risque ça quand on le représente, au lieu de rediriger contre un système. On est quand même toujours dans cette difficulté-là, il me semble, effectivement.
Oui, on risque de le recentrer sur des personnes et parfois sur un groupe de personnes particuliers qui contrôleraient tout à ce trait. Ça pose un certain nombre de problèmes.
Ça pose un certain nombre de questions. Laura Varlet, un mot de la fin ?
Ouais, je trouve super intéressant, Laïla, ce que tu as dit tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est cette question de la mobilité à travers, c'est vrai qu'on le voit à travers des personnes, cette question de la liberté, de la contrainte, etc. Au final, ce qu'il y a derrière ces personnes, c'est effectivement une organisation de l'ensemble de la société. C'est ça qu'il faut, à mon avis, qu'il faut retenir et qu'il faut porter dans nos réflexions, parce que ça revient un peu sur tout ce qu'on disait sur le jugement moral des personnes, alors qu'en réalité, ce qu'il y a derrière, C'est une organisation d'un ensemble. Et c'est ça qu'il faut, c'est sur quoi il faut porter le jugement.
En tout cas, on aura essayé de l'expliquer tout au long de cette émission. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Merci Laëlia pour ce mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à la semaine prochaine à tous et toutes.
Merci.
Merci.